La PAC en Occitanie. Quels sont les impacts de la politique agricole européenne dans notre région ? La Maison de l'Europe de Montpellier vous propose 6 émissions radio pour comprendre comment l'Europe intervient en faveur de l'agriculture et du développement rural en Occitanie. Un projet mené en partenariat avec l'Agence de développement rural Europe et Territoires, Radio Clapas, Divergence FM, Pyrénées FM, avec le soutien du collectif des radios libres d'Occitanie et cofinancé par la Commission européenne. Derrière les étiquettes que l'on retrouve sur nos produits alimentaires se cachent des dispositifs complexes à la croisée des enjeux agricoles, économiques et politiques. Mais que garantissent réellement ces labels ? Qui les définit ? Qui les contrôle ? Et surtout, quel est leur impact concret sur les producteurs et les consommateurs ? Dans cette émission, nous vous proposons de décrypter ces questions en deux temps. Dans une première partie, nous revenons sur les signes officiels d'origine et de qualité, SICO, avec Catherine Richer, déléguée territoriale à l'INAO, afin de comprendre leur cadre réglementaire, leur fonctionnement et ce qu'ils impliquent réellement pour leurs filières agricoles et les consommateurs. Puis, dans un second temps, nous nous intéresserons à l'impact concret des politiques agricoles européennes, notamment de la PAC, à travers deux exemples précis. D'un côté, la restauration scolaire dans l'Hérault, qui mobilise des financements publics pour introduire des produits bio et locaux dans les assiettes avec Nassima Souissi, directrice de la restauration scolaire de l'Hérault. De l'autre, le témoignage de Basile Dequiette, éleveur engagé en agriculture biologique, confronté aux réalités économiques, climatiques et administratives du métier. Au moment où la restauration scolaire est au cœur des enjeux de transition alimentaire, les collectivités territoriales jouent un rôle déterminant pour améliorer la qualité des repas tout en soutenant les filières agricoles locales. En introduction de produits bio, développement des circuits courts et respect des contraintes budgétaires, ces évolutions reposent en grande partie sur des financements publics et des dispositifs structurants comme les projets alimentaires territoriaux. Dans un contexte où les attentes des consommateurs en matière d'alimentation évoluent, la notion de produit de qualité est de plus en plus mise en avant sans toujours être clairement comprise. Entre label, origine et mode de production, les signes officiels de qualité jouent un rôle clé pour encadrer, garantir et valoriser les produits agricoles et alimentaires. Pour mieux comprendre ce que recouvrent concrètement ces dispositifs, nous avons rencontré Catherine Richer, déléguée territoriale Occitanie de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cet organisme public est chargé de définir, encadrer et contrôler les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, comme les AOC, AOP, IGP, label rouge ou encore l'agriculture biologique. À travers cet entretien, elle revient sur ce qui fait la spécificité de ces produits, leur encadrement réglementaire, les exigences imposées aux producteurs, ainsi que les enjeux économiques et territoriaux liés à ces démarches, particulièrement dans une région comme l'Occitanie, riche en production sous signe de qualité.
Eh bien, en fait, ce sont les seuls signes officiels de qualité et d'origine pour lesquels il y a une garantie de l'État et de l'Europe même, pour un certain nombre d'entre eux, associés au contrôle et à la protection juridique de ces démarches. Donc c'est une singularité et un statut qui est, je dirais, souvent copié, mais qui n'a pas d'équivalent. Donc c'est sûr qu'un certain nombre de démarches marketing ou de communication ont tendance parfois à se donner l'allure ou ressembler à des démarches officielles de qualité d'origine, mais elles n'en sont pas. Ils relèvent le plus souvent de démarches privées, collectives ou pas. Voilà. Et en utilisant par exemple le terme label, on peut faire croire qu'il y a une démarche, un engagement de l'État associé à la démarche, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, quel est le point commun entre les signes officiels de qualité et d'origine ? Eh bien, c'est un cahier des charges. Un cahier des charges qui a une force réglementaire, qui est publié au journal officiel, qui est, pour les signes européens, publié au journal officiel de l'Union européenne. Donc, la force, c'est pas du tout la même chose d'avoir un cahier des charges qui a une valeur réglementaire. En miroir est associé un plan de contrôle qui précise pour chaque point du cahier des charges quelles sont les méthodes et à quelle fréquence et comment chaque point du cahier des charges donne lieu à un contrôle. Et puis le troisième point, il est fondamental, il est même primordial, c'est une organisation collective des producteurs. Alors producteurs, entendez producteurs au sens large du terme, c'est-à-dire producteurs éventuellement transformateurs, tous les opérateurs qui concourent à l'élaboration du produit jusqu'à sa première mise en commercialisation. Voilà, pour obtenir, pour demander et ensuite pour gérer un signe officiel de qualité d'origine, il faut une organisation collective structurée entre les différents maillons de la chaîne de production et de transformation. Et ça, quand on y réfléchit, c'est pas si facile que ça à mettre en place et ensuite à animer, puisque quelque part, ce sont quand même des concurrents de premier niveau qui travaillent ensemble dans l'intérêt qui les dépasse, mais qui aussi les fédère, de promouvoir, défendre, définir un produit avec des caractéristiques communes. Alors, si on parle sur l'échelle de la région, je crois qu'une caractéristique qui est évidente, c'est la grande variété et la grande diversité et l'importance aussi des signes officiels de qualité d'origine dans le périmètre de la région Occitanie. Sur les vins, par exemple, hein, très clairement, c'est le premier, même si aujourd'hui la crise n'épargne pas le vignoble, c'est le premier vignoble du monde et il comporte 88 appellations d'origine protégées, 6 appellations sur les eaux de vie et spiritueux, 34 IGP, indications géographiques protégées. En volume, c'est la majeure partie des volumes d'indications géographiques protégées français sont produits en Occitanie. 10 produits laitiers, dont 9 fromages. Hein, c'est bien sûr les Roquefort, Bleu d'Écosse, Laguiole, Pélardon, Péraille. En charcuterie, viande, salaison, 114, donc là il y a beaucoup de labels rouges, 83 labels rouges concernent la région Occitanie. Évidemment, il y en a des emblématiques hein, qui ne sont pas produits que en Occitanie, mais qui sont aussi avec une composante importante de leur production en Occitanie, bien sûr, c'est le canard à foie gras du Sud-Ouest, et les produits des palmipèdes. En fruits et légumes, il y a 24 fruits et légumes, 12 fruits, 12 légumes. 5 olives et 8 d'olive pour les versants méditerranéens de la région. 3 céréales, 1 mille de noix, 1 miel, 1 sel, un plat cuisiné. Donc une très grande variété et une très grande participation des productions et des produits de la région Occitanie dans les démarches de signes officiels d'indication de l'origine et de la qualité. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout part du collectif à la base de la démarche, donc il faut une organisation collective. Et ensuite, tout dépend du signe qui est demandé, hein, puisque entre un cahier des charges d'appellation d'origine protégée, un cahier des charges d'indication géographique protégée, un cahier des charges de label rouge, ce ne sera pas les mêmes axes et les mêmes critères paramètres. Si je résume, pour une appellation d'origine contrôlée, c'est ici et nulle part ailleurs. Donc il faut faire la démonstration de la singularité du produit, des particularités liées à l'origine géographique, donc liées au lieu de production, de transformation. Et donc le cahier des charges va viser à définir le périmètre de production, de la matière première, de la transformation, et ensuite à bien positionner les balises qui sont nécessaires à préserver la particularité du produit. Donc dans un cahier des charges d'appellation, on voit, on va dire, des passages obligés, des points de repère, on ne voit pas forcément une recette. Le schéma de production est souvent plus complexe que cela, mais c'est de bien mettre les balises et les jalons qui vont permettre ensuite à chaque producteur de s'inscrire dans une démarche tout en ayant une certaine souplesse pour exprimer sa signature propre et puis s'adapter aussi aux millésimes ou aux années qui sont avec des météos qui peuvent être évidemment variable, mais garder le fil conducteur de l'identité du produit toujours. Et cette démarche-là, donc là, elle est peut-être, c'est peut-être la plus complexe pour les appellations d'origine contrôlée. Pour le label rouge, l'axe, c'est la démonstration et donc la garantie de la qualité supérieure. Donc la qualité supérieure, ça veut dire un écart qu'on peut objectiver par rapport à un niveau moyen courant. Et pour l'indication géographique, c'est un lien au lieu qui doit être tangible, qui doit être démontré, mais qui n'est peut-être pas autant exclusif ou peut-être pas autant ancré dans une tradition historique qu'en appellation d'origine contrôlée. Alors, c'est l'INAO, donc l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour la partie des opérateurs qui sont engagés dans le cahier des charges. C'est les collègues de la répression de la concurrence et de la consommation pour la partie commercialisation et mise sur le marché, hein, qui sont en charge du contrôle. Donc, on travaille de concert, en étroite collaboration entre nous, puisqu'on n'intervient pas au même stade sur la chaîne de production et de commercialisation, mais on est vraiment articulé très étroitement dans nos différentes actions. Et pour ce qui concerne l'INAO, on valide un plan de contrôle qui est prédéfini. Pour chaque cahier des charges, il y a un plan de contrôle associé qui précise exactement comment va être réalisé le point de contrôle, à quelle fréquence et même quelle suite va être donné en cas de non-conformité éventuelle. Donc il y a des gradations et il y a éventuellement une échelle de gradation en fonction de la récurrence. On voit bien que sur un produit d'origine, toute non-conformité par rapport à la zone d'origine serait suivie d'une décision absolument majeure. Voilà les grands axes. Et les opérations de contrôle sont confiées à des organismes certificateurs qui répondent à une norme de certification qui sont chargés de mettre en œuvre au quotidien, semaine après semaine, le déroulement du plan de contrôle et qui nous rendent des comptes périodiquement à chaque difficulté et si tout va bien régulièrement à chaque trimestre. Pour la partie des opérateurs qui souhaitent rentrer en démarche de signe officiel de qualité, tout dépend du produit, de la production. Parfois, rien n'est complexe. Parfois, le cahier des charges reprend juste, finalement, correspond exactement à ces pratiques, on va dire, historiques, habituelles, etc. Et à ce moment-là, peut-être la difficulté qu'il pourrait ressentir, c'est de tracer, de garder des documents, de garder des éléments objectifs qui montrent la bonne réalisation du cahier des charges. Mais il n'y a pas forcément de difficulté a priori par principe. Et ensuite, c'est dans le cas d'évolution ou de nouvel opérateur qui souhaite rentrer en démarche de signe officiel de qualité, où là, peut-être, il peut avoir un effort ou une évolution à mettre en œuvre.
Au moment où la restauration scolaire est au cœur des enjeux de transition alimentaire, les collectivités territoriales jouent un rôle déterminant pour améliorer la qualité des repas tout en soutenant les filières agricoles locales. En introduction de produits bio, développement des circuits courts et respect des contraintes budgétaires, ces évolutions reposent en grande partie sur des financements publics et des dispositifs structurants comme les projets alimentaires territoriaux. Pour mieux comprendre comment ces politiques se traduisent concrètement sur le terrain, nous avons rencontré Nassima Souissi, directrice de la restauration scolaire du département de l'Hérault. À travers cet entretien, elle détaille le rôle des aides financières, leur origine, mais aussi leur impact sur la composition des menus, l'organisation des services et les relations avec les producteurs locaux. Elle revient également sur les contraintes administratives et les arbitrages quotidiens nécessaires pour concilier qualité, coût et accessibilité des repas servis aux élèves.
Depuis 2022, notre département a fait le choix fort, celui d'investir dans la qualité de l'alimentation des collégiens. Concrètement, nous bénéficions d'un programme appelé « Les fruits à l'école » qui permet aujourd'hui d'introduire des produits de qualité, notamment sous signe officiel, comme les bio, les AOP, les labels rouges dans les menus. Cette aide a fortement évolué chez nous, passant de 150 000 euros à 300 000 euros aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas un cas isolé. À l'échelle nationale, ce programme représente une enveloppe de 32 millions d'euros par an, répartie sur l'ensemble du territoire français. Et les bénéficiaires sont eux aussi très nombreux, les collectivités locales, les collèges, les lycées, mais aussi les organismes qui gèrent la restauration scolaire. Autrement dit, en France, des millions d'élèves peuvent bénéficier de cette subvention. Moi, je dirais qu'ils servent essentiellement à valoriser les produits de circuits courts, de filières locales et des produits de qualité, à faire connaître les produits en direct. En l'occurrence, nous, tout est investi dans la qualité du produit. On investit sur le bol alimentaire, nous, ce qu'on appelle le bol alimentaire, la matière première qui est proposée aux collégiens. Alors, à dire vrai, en toute transparence, sans les financements européens, nous n'aurions pas pu faire le bond entre la loi Egalim et le 75% haute qualité alimentaire proposé aujourd'hui dans les collèges de l'Hérault. La subvention a certes facilité le bond budgétaire qui était nécessaire pour proposer les produits de qualité, et en l'occurrence, ça a été le cas chez nous. Alors, lorsque vous avez un producteur local qui crée et qui investit dans un outil de production, le fait d'avoir une collectivité qui lui commande une certaine quantité de produits et de manière régulière tout au long de l'année, ça lui assure bien évidemment une rentrée fixe d'un certain montant financier. Ce qui lui permet, en l'occurrence, de pouvoir investir, de pouvoir renouveler son matériel et aussi recruter du personnel. De mémoire, en 2022, nous étions autour d'une dizaine de fournisseurs locaux qui produisaient justement certaines familles de produits pour le département. On est monté, alors bien évidemment, on est contraint par les marchés publics et il faut tout de même que les fournisseurs locaux répondent à un certain nombre de critères demandés dans nos cahiers des charges, mais on a quand même vu une évolution positive du nombre de fournisseurs d'environ 30%. Alors, pour accéder à cette aide, il y a un cadre très structuré. D'abord, il y a l'agrément. Chaque collectivité ou structure doit déposer un dossier auprès de France Agrimaire. Cet agrément est obligatoire et doit être renouvelé chaque année. Dans ce dossier, on décrit concrètement comment on va mettre en œuvre le programme, quels établissements sont concernés, quels collèges sont concernés, quels produits seront proposés et à quelle fréquence et pour combien d'élèves. Il est donc vrai que la démarche de pilotage, c'est une véritable démarche de pilotage, c'est pas simplement l'octroi d'une subvention. Ensuite, il y a le rôle clé des fournisseurs. Les produits doivent obligatoirement être achetés auprès de fournisseurs référencés par France Agrimaire. Pourquoi ? Parce que le fournisseur va s'engager à fournir des données fiables, un récapitulatif précis des livraisons, une traçabilité des produits et la preuve qu'il respecte bien les critères qualité. Cela garantit notamment la transparence sur tout ce qui structure la filière. On travaille davantage avec des producteurs engagés dans une démarche qualité, souvent local ou régional. Enfin, et un point très important, c'est que nous, en qualité de gestionnaire, il y a aussi une notion de période. Le programme fonctionne désormais en deux grandes périodes dans l'année scolaire, de septembre à janvier, puis de février à juillet. Pour chaque période correspondent des distributions, puis une demande de remboursement est déposée dans un délai de 3 mois. Cela implique une organisation très rigoureuse. Il faut planifier les menus, suivre précisément les produits servis et conserver bien évidemment des preuves, notamment des menus et les récapitulatifs fournisseurs. Ces preuves seront notamment présentées aux contrôleurs lorsqu'ils contrôlent justement le dispositif auprès des collectivités. Cette rigueur garantit aussi un objectif très concret, celui que chaque euro est bien utilisé pour améliorer l'alimentation des enfants. Je pense qu'au démarrage, c'était effectivement de grosses contraintes pour les équipes, mais ça leur a permis de structurer le fonctionnement, l'organisation des livraisons, la traçabilité, et c'est aujourd'hui un avantage. Alors bien évidemment, les consommateurs et les usagers sont très satisfaits de voir sur le self du collégien, dans le plateau repas du collégien, des produits qualitatifs, des produits circuits courts. On le mesure aussi lorsque l'on sensibilise les élèves à l'alimentation, lorsqu'on leur apprend à reconnaître des produits de qualité, chose qui se fait de manière assez régulière par les équipes de la direction de la restauration scolaire. Et puis, pour nos collectivités, ça devient un levier essentiel, celui de proposer des produits de qualité, soutenir les filières et enfin de faire de la restauration scolaire un véritable outil de santé publique. Les produits bio labellisés, je pense qu'ils sont d'autant plus compris que les élèves déjà les identifient au niveau des menus puisqu'ils sont siglés. Dans la barre de self, on a sur une certaine période identifié les produits directement sur la barre de self. Et puis aujourd'hui, les produits bio labellisés sont beaucoup plus identifiés qu'ils ne l'étaient il y a une dizaine d'années par les jeunes. Alors, je pense que le coût est une limite. il faut effectivement identifier un coût important d'une part et d'autre part les volumes qui pour nous représentent le principal frein pour les petits fournisseurs locaux. Quand on dit petits fournisseurs, c'est que les fournisseurs sont peut-être pas en capacité de fournir l'intégralité des produits qui sont commandés en termes de quantitatifs. Et bien évidemment, la structure des filières qui aujourd'hui sur la région, si on se contraint à être fourni par des fournisseurs locaux, la structure des filières est aussi un des freins que l'on rencontre aujourd'hui. Peut-être dans accompagner les filières dans les réponses au marché. Aujourd'hui, toute collectivité publique se doit de pouvoir mesurer toutes les propositions d'offres alimentaires au regard de certaines contraintes cahier des charges de marché public. C'est le principal frein qui fait qu'aujourd'hui, nos fournisseurs locaux ne répondent pas à certains marchés ou répondent entre guillemets mal et du coup se font sortir de la liste des candidats potentiels pour fournir nos denrées alimentaires. Donc l'un des principaux freins serait peut-être éventuellement de faire évoluer les marchés publics à destination des petits fournisseurs qui se structurent en filières et qui essaient tant bien que mal de fournir des produits de qualité.
Ancien président du CIVAM Bio de l'Hérault, Basile de Quiette est éleveur de brebis à Avesnes, où il conduit avec sa compagne une exploitation en agriculture biologique. Son parcours illustre les transformations profondes que connaît aujourd'hui le monde agricole, adaptation au changement climatique, évolution des modèles économiques et dépendance aux politiques publiques. Le réseau CIVAM Bio de l'Hérault est une association Loi 1901, créée en 1986 par des agriculteurs bio dans laquelle l'ensemble des productions agricoles locales sont représentées. Aujourd'hui, il compte environ 250 adhérents entre agriculteurs, porteurs de projets, entreprises et consommateurs. À travers son expérience et son engagement dans le réseau CIVAM, Basile de Quiette porte un regard critique et concret sur la PAC, ses dispositifs d'aide et leur rôle dans la transition agroécologique.
Nous élevons 150 brebis dans le nord de l'Hérault, dans les Hauts-Cantons, voilà, commune d'Avesnes. Quand on a repris la ferme en 2013 exactement, elle était en conventionnel et on trayait pour Lactalis. Et 2 ans après notre installation, le prix du litre de lait s'est cassé la figure. Donc il a fallu trouver des solutions. Et on venait de la vente directe. Donc on est reparti vers la vente directe. Et on en a profité pour faire le virage vers la bio. Voilà, parce qu'en fait, l'exploitation qu'on avait auparavant était déjà en bio et on souhaitait y retourner. Donc voilà, ça permettait de faire d'une pierre deux coups. Alors d'un point de vue technique, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, d'un point de vue économique, oui. En fait, en réduisant la taille du troupeau, on a adapté celui-ci à l'offre fourragère. Et en fait, le réchauffement climatique va tellement vite qu'au départ, on pensait être à l'aise. Et en fait, aujourd'hui, on est juste bien. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on descende plus bas. Économiquement, ce ne serait pas tenable. Voilà, l'autre avantage, c'est que le passage en bio amène beaucoup d'aide. Et comme c'était une technique qu'on maîtrisait déjà bien, on a pu profiter pleinement des aides pour remonter économiquement la ferme et la mettre sur des bons rails, de manière à ce que quand les aides à la conversion s'arrêtent, on ne se retrouve pas planté. Ce qui arrive souvent chez des gens qui n'ont pas forcément l'habitude. La seule chose que j'ai peut-être éventuellement permise, c'est d'avoir une gestion un peu plus collective. Enfin, moi, c'était le but que j'avais en tant que président. Et en fait, quand je suis devenu président, il n'y avait plus d'exploitants au sein du conseil d'administration. Ils sont arrivés après. Donc du coup, l'équipe s'est constituée autour de cette idée-là. Donc voilà, c'est peut-être à peu près la seule influence que j'ai pu avoir. Mais après, comme l'idée, c'était de toute façon d'avoir une gestion collégiale, je ne sais pas si c'est moi qui suis responsable ou si les gens qui sont rentrés ont adhéré à ça et ont donc permis à cette gestion de se mettre en place. Bon, il y a aussi le rôle des salariés qui sont très très présentes, très compétentes. Et ouais, tout ça a bien collé. L'agriculture ne peut rien aujourd'hui sans la PAC. Économiquement, ce n'est pas tenable. Il faut bien s'imaginer que sur l'exploitation sur laquelle on est aujourd'hui, plus de la moitié du chiffre d'affaires est représenté par les aides PAC, directes ou indirectes. Et donc sans ça, on ne fonctionnerait absolument pas, puisque de toute façon, notre revenu, notre bénéfice, représente à peu près un quart du chiffre d'affaires. Donc de toute façon, sans la PAC, on n'arriverait pas à fonctionner. C'est impossible. Et notre modèle, en particulier dans les exploitations d'élevage, est parmi les modèles les plus autonomes vis-à-vis des ADPAC. Voilà. Alors, l'essentiel de nos aides sont découplées. Concrètement, c'est de l'argent qui nous permet d'assurer le fonctionnement de base de l'exploitation. Voilà. On touche un montant à l'hectare en fonction du type d'aide visée. Alors en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas voulu adapter l'exploitation à la PAC. On est allé chercher les aides qui correspondaient à notre fonctionnement. Parce que contraindre le fonctionnement d'une exploitation coûte cher. Donc si les aides ne sont pas suffisantes, financièrement, c'est pas tenable. Alors administrativement, il y a déjà la déclaration à faire. Donc il faut être dans les temps. En général, ça tombe à un moment qui n'est pas toujours très favorable pour nous, parce que c'est au printemps, c'est le moment où on est le plus occupé. Il faut pouvoir justifier de tout ce qu'on fait, voilà, il faut justifier des terres dont on dispose, donc disposer des baux, des conventions, etc. Ce qui n'est pas toujours évident. Et après, au niveau des contraintes vis-à-vis des contrôles, par exemple au niveau des brebis, il faut s'assurer qu'on ait toujours que notre effectif soit justifiable à tout moment. À tout moment, l'administration va pouvoir venir sur la ferme, contrôler. Par exemple, quand une bête quitte l'exploitation, il faut notifier à l'administration dans les 7 jours que la bête a quitté l'exploitation. Et il faut que ça soit raccord avec la personne à qui vous avez vendu la bête, qui elle va notifier qu'elle a rentré une bête. Et tout ça est contrôlé par l'administration. Si jamais ça ne colle pas, eh ben on vous envoie, enfin, vous devenez susceptible d'être contrôlé, quoi. Parce qu'il n'y a pas que ça, on est aussi contrôlé sur les surfaces. On déclare nos surfaces, on déclare qu'on fait telle et telle chose sur les surfaces. Et il faut que quand on soit contrôlé, ça corresponde aussi bien la surface déclarée que ce qu'on fait sur la surface. Donc si c'est de l'herbe, eh ben, il faut que ça soit de l'herbe. Si c'est du maïs, c'est du maïs, etc. Enfin, on a simplifié le système, où on fait maintenant plus que de l'herbe, comme ça au moins les déclarations sont beaucoup plus simples. Là où ça devient difficile, par exemple, c'est... L'Europe considère qu'elle va subventionner de l'herbe. Donc il faut que vous justifiez la quantité d'herbe que vous avez sur vos surfaces. Alors quand c'est un pré, c'est que de l'herbe. Mais quand c'est du bois ou du parcours, il a fallu en 2015 enlever les gros cailloux, l'état de pied, les pierriers qu'il y avait au milieu des surfaces et dans les parcours, dans les bois, justifier de ce qu'il y avait sous les arbres. Parce que le satellite ne voit pas sous les arbres. Donc, il a fallu, par exemple, pendant 2 ans, justifier de ce qu'on faisait. Et donc, on a été contrôlé. Par exemple, nous, on s'est aperçu avec mon épouse, comme on était plutôt des bons élèves, qu'on avait sous-déclaré de plus de 25%. Alors, on a gardé cette sous-déclaration. En fait, on s'est presque obligé à baisser notre revenu parce que ça nous donnait une grande libéralité au niveau des contrôles. C'est-à-dire que si on était contrôlé, on savait qu'on était dans les clous de toute façon, quoi. Mais ça veut dire aussi que chaque année, il faut bien faire attention à débroussailler les zones qu'on a déclarées pour pas qu'elles s'embroussaillent trop. Il faut bien faire les feux. Alors, par exemple, cette année, ça a été compliqué parce qu'on a eu un hiver pluvieux et j'ai par exemple pas pu faire mes écobuages en temps et en heure. Et donc, je risque d'avoir surdéclaré, quoi. Alors, comme je m'étais donné de la marge, normalement, ça devrait aller, mais on vit toujours avec cette petite angoisse. Sachant que si on est détecté, parce que maintenant, c'est contrôlé par IA, si on est détecté comme étant pas dans les clous, les aides sont bloquées. Et comme ces aides conditionnent, par exemple, en début de saison, on fait des courts termes de trésorerie pour avoir la trésorerie pour faire notre saison, mais on les nantit sur nos aides PAC. Et donc au moment de rembourser ce court terme, si on n'a pas touché les aides PAC, on se retrouve en défaut par rapport à la banque. Voilà, et en fait tout ça crée une espèce de stress un peu permanent, quoi, qui est très difficile à vivre, quoi. Alors sur la zone dans laquelle on se trouve, contrairement à par exemple une zone comme la Bretagne ou même tout l'Ouest, on a des contraintes de plancher. C'est-à-dire que dans les zones où il y a beaucoup d'herbe, où il y a beaucoup d'eau, les gens plafonnent, on les oblige à avoir un chargement, un nombre de brebis ou de bêtes à l'hectare maximum, de manière à ce qu'on ne pollue pas trop les cours d'eau, etc. Ça peut se comprendre, mais nous, on a le problème inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on descende en dessous d'un certain plancher. Et en fait, donc nous, on a un système qui est relativement intensif, on va dire. On s'oblige à avoir un certain nombre de brebis sur la surface. Mais on est à la limite du seuil, quoi. Et on sait qu'on a des collègues, par exemple, qui sont sur des zones encore plus difficiles que les nôtres, qui étaient en dessous de ce seuil. Et donc, ça a impliqué chez eux des pertes de surface et des pertes de primes. Alors qu'ils sont déjà sur des systèmes très, très difficiles, très tendus, quoi, Et donc, en fait, voilà, la contrainte majeure pour nous, ça a été ça, quoi. C'était de bien contrôler qu'on soit à 0,2 UGB par hectare, c'est-à-dire à peu près une brebis par hectare. Et quand vous déclarez 90, 92 hectares, et en même temps, c'est la limite physique sur laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, on sait que les années de sécheresse, on risque de se retrouver en déficit fourrager grave. La première chose à faire, ce serait de véritablement réaliser la convergence qui avait été promise. C'est-à-dire qu'en fait, en 2015, quand ils ont réformé la PAC, ils ont dit, voilà, il y a des gens qui touchent beaucoup à l'hectare, plus de 300 euros à l'hectare, il y a des gens qui touchent très peu à l'hectare, dont on faisait partie, c'est-à-dire moins de 90 euros par hectare. Voilà, et parce qu'en fait c'était un montant qui avait été institué de façon historique, c'est-à-dire que si historiquement vous touchiez, vous aviez des productions à forte PAC, comme le maïs irrigué par exemple, et bien historiquement vous aviez vous avez un fort montant à l'hectare. Ce qui fait que par exemple des gens qui étaient en maïs irrigué, qui se retrouvaient avec 300 euros par hectare, dotés de façon historique, ont abandonné par exemple le maïs irrigué, sont mis en système herbe et donc ont vraiment réalisé le jackpot. Alors ça, ce sont des gens très intelligents, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais ce serait quand même vachement bien qu'on puisse faire la même chose chez des gens qui sont déjà historiquement à l'herbe et qui touchent des montants très faibles. Les gens qui sont historiquement à l'herbe avaient des montants qui étaient à 60, 70, 90 euros de l'hectare en moyenne, quoi. Et donc ces gens-là ont par force des revenus très bas. Et en fait, il nous avait été promis qu'on allait faire une convergence, c'est-à-dire abaisser le niveau des montants de primes hauts vers une sorte de milieu, quoi, et faire converger ceux qui étaient en bas vers le milieu. Sauf que cette convergence s'est faite très très lentement, et là on arrive à une nouvelle réforme de la PAC où on va supprimer ces systèmes. Et donc en définitive, nos montants de PAC ont augmenté. En fait, ils ont à peine compensé l'inflation. Quand on regarde avec l'inflation qu'il y a eu en 2022, ça n'a même plus compensé cette inflation. Donc fatalement, notre revenu a baissé. Dans la mesure où c'est un montant fixe, et qu'en plus on a quasiment bloqué notre système fourrager, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut qu'il soit, c'est le plus adaptatif en fait. On s'occupe beaucoup plus, nous, de développer la vente directe, puisque en fait, c'est là où on a le plus à gagner d'argent. On peut développer nos marchés. Je parle un peu comme un entrepreneur, mais en fait, c'est exactement ça. La PAC, pour nous, c'est une espèce de base solide sur laquelle on s'appuie. On a essayé de réduire les coûts au minimum. Et en fait, là où on essaye de gagner, c'est sur nos marchés et donc sur la vente directe, et essayer d'avoir les produits qui rapportent le plus, etc. Donc notre système étant en quelque sorte autonome vis-à-vis de la PAC, moi je ne réfléchis pas à ce que pourrait être la PAC à l'avenir. Ce qui ne serait pas vrai si j'étais par exemple en bovin-viande ou même en brebis laitière, vente laiterie, quoi. Donc du coup, j'ai pas trop de... Le système tel qu'il était là maintenant était quand même pas si mal avec ces deux piliers. Simplement, pour moi, il aurait juste fallu augmenter les montants des plus petites PAC, parce que ce sont ces gens-là qui ont les systèmes d'un point de vue climatique les plus résilients, c'est-à-dire en général sur des systèmes en sec et liés à l'herbe et à la production fourragère locale, quoi.
C'était La PAC en Occitanie, une série de 6 émissions en partenariat avec la Maison de l'Europe de Montpellier, l'Agence de développement rural Europe et Territoires, Radio Clapas, Divergence FM, Pyrénées FM, avec le soutien du collectif des radios libres d'Occitanie et cofinancé par la Commission européenne.